gestes du Seigneur aujourd'hui. Il n'y a rien de plus précieux de ce que nous avons reçu. Il n'y a rien de plus précieux comme Jésus-Christ en nous. Vous savez, ce qui est encore merveilleux, j'espère que nous pourrons le voir encore davantage ce matin comme nous l'avons vu hier. Seigneur, il est toujours plus grand et il veut l'écrire dans nos cœurs. Oui, Seigneur, il a une œuvre, il a un plan. Nous connaissons ce verset que nous avons lu. Cette œuvre qu'il a commencée, il va aussi le terminer. C'est une bonne œuvre. C'est une œuvre de gloire. C'est le centre dans tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que j'apprécie encore, c'est que nous tous qui sommes ici, nous avons part à cette œuvre. Cela nous touche personnellement. Et avant que nous lisions encore ces versets dans Philippiens, j'aimerais revenir un petit peu sur les actes des apôtres. Nous avons reçu un petit clin d'œil hier, comment l'église de Philippe a commencé. Un petit souci avec le micro. Voilà. Alors, ça va mieux. Cette histoire que nous voyons dans Actes des Apôtres, nous pouvons le résumer ainsi. Ainsi fit Dieu. Ces versets que nous avons lus hier dans Actes des Apôtres 16. Il voulait parler la parole. Et les frères avaient quelque chose de totalement différent. C'est Actes 16, 11. Oui, alors, les versets, c'est de Actes 16, 11 et plus loin. Et là, les frères, ils voulaient aller à une région. Ils voulaient annoncer la gloire de Dieu, mais Dieu avait quelque chose d'autre de prévu pour eux. Et cette phrase de l'Esprit, qui leur a parlé, allez plutôt à Philippe. Ils avaient un fardeau en eux. Ce trésor qui était dans leur cœur leur donnait ce fardeau. Cet amour nous presse d'aller à la croix. Pourquoi? Pour moi. Prenez ce mot que Dieu l'a fait pour moi. Chérissez-le ce matin. Il a fait cela pour chacun des hommes et pour moi particulièrement. Et ce Seigneur, il doit être annoncé. La grandeur de ce Seigneur doit être annoncée. Qu'il soit annoncé dans tout le monde entier. Et pourtant, ici, l'Esprit ne leur a pas permis de prendre le chemin qu'ils avaient prévu, parce que l'Esprit avait prévu autre chose. On peut prendre le résumé et dire, ah ouais, les frères ont préparé un résumé, c'est très bien. C'est bien quand nous ayons Paul. Non, c'est pas le point. C'est Dieu qui l'a fait. Et je suis si heureux de voir comment cela continue dans Actes. Dans chapitre 16, verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle. Paul était si dépendant de Dieu, c'est pour ça qu'il pouvait dire, j'ai décidé. Peut-être que l'Esprit veut que nous allons annoncer la parole à tel et tel endroit. Et j'apprécie J'apprécie cette attitude qu'il avait de prendre ce que l'Esprit leur a dit dans la foi et dans la confiance en Dieu. Aujourd'hui, on peut entendre plein d'histoires. On peut dire merveilleux de tout ce que le Seigneur a fait. Mais les frères ici, ils étaient dans le aujourd'hui. Ils étaient dans le temps d'aujourd'hui. Et ils avaient confiance dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur leur disait. Tu ne sais pas ce qui vient sur toi. Tu ne sais pas. Nous avons chanté ce chant. Tourne mon cœur maintenant. Nous avons tellement lu, tellement connu. Mais ici, l'Esprit leur a parlé et leur a dit, non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que vous alliez ailleurs. C'est un tel encouragement pour nous. Ils se sont exercés à rester fidèles et de lui obéir. C'est parfois un petit éclair qui éclaire notre cœur. On voit ici qu'il y a eu une réaction spontanée de ce qu'ils avaient entendu de l'Esprit. Paul a seulement parlé et spontanément Lydie a cru. Ils ont cherché le Seigneur et ils ont ouvert leur bouche. Ils ont parlé de manière spontanée et là, il y avait quelqu'un qui était ouvert, qui a écouté. Quelqu'un parle et l'autre écoute. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Et aujourd'hui, n'écoutons pas seulement les uns les autres de manière superficielle. Oui, j'ai déjà entendu. Continuons à parler. Non, écoutons ce que l'Esprit a à parler. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre, dans l'intérieur? Parfois, on a besoin de rester tranquille et d'être attentif à ce que nos oreilles doivent entendre. Sois attentif, comment réagit ton cœur. Cette sœur Lydie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a tout de suite tourné son cœur. Elle a tourné le cœur à Dieu, à notre Seigneur. Elle a ouvert son cœur. C'est Dieu qui l'a fait. C'est le Seigneur qui l'a fait en elle. C'est lui qui rend nos cœurs, qui adoucit nos cœurs. Il y avait quelqu'un ici qui écoutait. Elle a cru, elle a ouvert toute sa maison. Ils ont été baptisés. Et après, il y a deux réactions que je trouve particulières et très précieuses. La première fois, si vous pensez que je peux être fidèle à Dieu, et la deuxième réaction, tout de suite, cette recherche dans la communion. Nous avons besoin de plus de communion. Seigneur, il œuvre d'une manière qui est fantastique. Dieu a fait quelque chose de si grand. Une famille a été sauvée dans une maison. Et ensuite, il y a tout de suite l'ennemi qui essaie d'œuvrer quelque chose. Dans Philippiens 1, 28, il nous est dit, Philippiens 1, 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires de ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. L'ennemi cherche à détruire, tout de suite dans une forme ou une autre, rendre à rien cette petite semence qui est entrée dans nos cœurs. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, Paul nous dit, pour moi, une porte a été ouverte. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Il dit, il y a beaucoup d'adversaires, il y a de l'adversité qui est là présente. Mais laissons-nous pas impressionner par cette adversité. Lorsque les frères étaient dans cette situation, ce n'était pas facile pour eux. Je trouve intéressant de voir que toute la ville a été en adversité. Il y a une famille qui vient au Seigneur, qui se fait baptiser, et toute la ville réagit là contre. Les conséquences, ils ont dû aller en prison.
Tac.
Et je ne sais pas comment étaient les frères à ce moment-là. Ils sont allés en Asie. Il y a des réactions en nous. Mais c'est tellement merveilleux de voir qu'ils connaissaient le Seigneur en eux. Ils avaient déjà marché une bonne partie de leur chemin. Tout à coup, ils ont été pris et emmenés en prison. Ils n'ont pas essayé de se plaindre et dire pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe. C'est tellement fascinant. Ils sont restés en prison, ils ont prié et ils ont loué Dieu et ils l'ont glorifié. Ils glorifiaient son nom. Je trouve si bon de voir, nous avons encore vu hier soir, de l'oublier ce qui est en arrière. Comprenez-moi bien, ils n'ont certainement pas oublié ce que le Seigneur a fait de grand pour eux et comment il les a aidés et comment tout le baptême, tout ce qu'ils ont vécu. Et si quelque chose arrive juste après, il y a peut-être la rébellion qui s'ouvre en nous et qui nous dit « Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ?» Non, les disciples ont été fidèles à Dieu et ils ont resté, ils ont gagné, continué à gagner le Seigneur. Ils ont continué à parler le Seigneur. Et Lydie a pu avoir la foi. Une maison a été sauvée. Notre Dieu est fidèle. C'est si fascinant de voir. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ont, dans cette situation, cherché à suivre l'Esprit en eux. Ça, c'est la clé. Regarde au Seigneur. Regarde lui seul. Et dans cette situation dans laquelle ils étaient, en prison, il a dit, ils ont remis ça à Dieu. Et celui qui s'occupait des prisonniers dans la prison s'est tourné à Dieu. Et là, on a le deuxième. Qui c'est qui leur avait dit qui serait le prochain à croire? Mais là aussi, nous voyons une réaction spontanée d'écoute de l'Esprit afin que Dieu puisse gagner celui qu'il avait prévu de gagner. Et Christ est si grand dans toutes ces différentes situations. Comment? C'est le geôlier, il a demandé, comment je peux faire pour être sauvé? Comment je peux être fait? Pas être sauvé une fois pour toutes et on laisse. Non, il voulait être sauvé dans sa vie journalière. Comment je peux être sauvé? Comment je peux être trouvé en toi? La conversion du geôlier se trouve dans Actes 16 à partir du verset 25. Ce geôlier n'a pas attendu. Il n'a pas attendu, il n'a pas, c'est pas fourvoyé en laissant le temps passer. Quand le Seigneur agit dans notre cœur, prends cela comme étant ce qui doit se passer maintenant. Ah, ce geôlier dit, oui, c'est juste, je dois encore me laisser me faire baptiser. N'attends pas lundi. Bon, ici, on a dit, il y a un baptême lundi, c'est pour des questions d'organisation. Mais si tu as l'impression que tu dois amener des choses en ordre, c'est pas dans un, c'est quelque chose qui doit être réglé tout de suite. Ça, son sang nous purifie, nous lave, et son sang est valable maintenant. Ici aussi, je trouve si merveilleux ce besoin qu'avait le geôlier de chercher la communion et de chercher la communion avec les autres qui croyaient aussi. Dans le verset 40, cette histoire se termine et les frères les ont encouragés. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Là, il y a deux familles dans une ville et ils ont vu que les disciples avaient dû aller en prison. Il y a une situation un peu qui se décourage dans Zacharie 4, verset 10. C'est la version Luther. Le plus petit jour. Claudia est en train de chercher le verset. Merci. Zacharie, c'est pas. Ouais. Oh, Seigneur Jésus. Voilà. Quel verset? Zacharie 4:10. Oh, Jésus-Christ. Alors, on passe tout de suite à Philippe, mais je vous lis le verset de Zacharie 4:10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la maison de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et maintenant, nous passons à Philippiens. Tous ceux qui sont à Philippe et tous les croyants, c'était les premiers versets. Ici, il y a la vie de l'Église qui a été créée, qui est venue en existence. Tout ce que le Seigneur a fait, il sait, tout ce que le Seigneur a produit, c'est la vie de l'Église à Philippe. Beaucoup de frères et sœurs sont venus là, dans une ville, et ils ont commencé à se réunir. Et Dieu a encore rajouté des nouveaux, des diacons, des serviteurs, sans une valeur, si on peut le dire comme ça, spécifique. Mais Dieu a été mis, Dieu a été mis en expression ici, dans Philippe. Dieu nous a donné des évangélistes, des prophètes, des enseignants, toutes ces fonctions spécifiques sont dans la vie de l'Église, appartiennent à la vie de l'Église. On a vu hier que nous pouvons tout simplement gagner Christ, gagner l'Esprit, afin que lui il puisse terminer son œuvre. C'est merveilleux. Un point qui est central et que nous avons déjà vu hier soir, c'est qu'en est-il de notre cœur et qu'en est-il de nos oreilles? Nous connaissons tous ces versets et celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans un certain sens, c'est un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous réjouir. Et je chéris ce verset que encore aujourd'hui, Dieu nous parle et nous préserve parce qu'il a un désir afin que nous soyons préparés et que nous puissions grandir en lui. Et en même temps, c'est une responsabilité comment nous réagissons face à ce que nous entendons? Est-ce que nous sommes des auditeurs oublieux? Sommes-nous des auditeurs qui se contentent d'entendre quelque chose? Ou sommes-nous des auditeurs qui avons la volonté d'accomplir et d'être trouvé dans ce que le Seigneur désire pour nous? Ézéchiel disait cela dans le Ézéchiel 2, verset 7. Tu dois leur dire, tu dois lire les paroles que ce que j'ai donné. Ouvre la bouche. Comme nous pouvons le parler dans les réunions. Et exercez-vous. Et le verset continue. Tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu te parle. C'était Ézéchiel 2, 7 et 8. Comment nous réagissons face à ce que nous entendons? Sommes-nous des personnes qui avons cette conscience de la responsabilité que nous avons, qui demandons au Seigneur, ou sommes-nous des hommes qui savons de toute façon comment ça doit marcher et qui pouvons expliquer comment est la vie de l'Église, comment ça doit être? C'est comme ça tu dois te comporter, comment on doit se comporter. Et si tu entends quelque chose, tu dis, tu pries, ça correspondra déjà bien à ce que Dieu veut. Non, la question elle est comment Dieu peut ouvrir nos cœurs et écrire sur nos cœurs avec l'esprit de vie. Lorsque Paul a dit au revoir à la... Dans Acte 20, c'est pourquoi je peux témoigner que je n'ai pas été infidèle à la vision céleste. C'est merveilleux. Paul pouvait dire cela. Dans la parole, tout le plan de Dieu nous a été révélé au travers de la parole. Nous avons besoin d'un cœur qui soit entièrement ouvert à cela. C'était les versets Actes 20, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, etc. Chacun doit prendre garde à ce que le Seigneur parle dans nos cœurs, dans son cœur à lui. Et dans Jean, la situation, on la connaît tous. Dans Jean 21, j'aime ce verset, où Pierre demande à Jésus, on a cette histoire, où Pierre demande à Jésus, Seigneur, aie avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Ça, et puis Seigneur répond, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Avec tous les points d'interrogation, tous les gens qui doivent encore accomplir quelque chose, peut-être intéressant de savoir. Ça m'intéresserait aussi de savoir comment le Seigneur va donner des notes sur tout ce qui a été fait autour de nous. Non, le Seigneur répond à Pierre, cela ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Et pour toi-même, tu as déjà tellement à faire. Ça suffit, c'est bon. Occupe-toi de ton cœur. Si tu remarques que tu cherches le Seigneur, que tu veux te donner à lui, il y a une tendance à vouloir te comparer à d'autres. Mais le plan de Dieu en toi est beaucoup plus grand que cette petite comparaison. On peut pas louer Dieu assez lorsqu'un cœur se tourne vers le Seigneur. C'est déjà tellement merveilleux. Notre Seigneur est encore plus grand. Il y a nous devons prendre une décision dans notre cœur, d'activement. Seigneur, protège-nous de tellement de choses. J'appartiens à mon Seigneur. Lui, je suis sa possession. Seigneur, toi, tu es celui qui est le plus précieux en nous. Il n'y a rien qui soit plus précieux. Il n'y a rien de plus beau. Amen. C'est pourquoi nous pouvons oublier ce qui est en arrière. Mais on a en devant nos yeux tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous.
Nous pensons,
ce n'est pas une petite chose. Comment Dieu a pu utiliser les disciples et susciter une église à Philippe et susciter des croyants dans cette localité. Je ne sais pas combien ils étaient. 10, 20, 40.
So viele verschiedene Hintergründe.
Qui est des gens qui se rassemblent en Christ avec tellement de caractère, avec tellement d'histoire personnelle. Chacun, ils avaient leur propre attitude, propre vue, et ils ont dû apprendre à être unis. Voilà. Entraînons-nous à regarder le Seigneur. Dans 2 Timothée 2, Paul nous encourage. 2 Timothée 2, 3.
Keiner, der als Soldat dient, verstrickt sich in Geschäfte des alltäglichen Lebens, damit dem gefällt, der geworben hat. Das ist unsere Ausrichtung. Wir wollen dem gefallen.
Nous voulons plaire à celui qui nous a rachetés. Le verset « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si nous regardons sur ce verset, si nous regardons à Dieu et voulons nous reconnaissons comme il est, dans une attitude de vouloir le gagner. Et nous remarquons, ah, Christ a aussi un désir. Ça, et ce n'est pas de moi. Ce Seigneur a un désir qui est résumé dans ce verset, dans Jean 17. Lisons-le, Jean 17, versets 20 à 23. C'est le désir, on voit ici le désir de Christ, résumé dans ces trois versets. Que nous lisions tous dans toutes les langues. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé.
fasst irgendwie nochmal das ganze Wirken unseres Herrn, sein Herzensanliegen.
Ici, on voit encore, en quelques versets, ce que Dieu veut, en quelques phrases, ce que Dieu veut. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Toi en moi, et eux en moi en eux, et toi en moi. C'est si bon quand on lit un tel verset que nous laissions Dieu parler dans nos cœurs et que nous ne soyons pas si rapides de pouvoir expliquer, de ordonner, de classer comment cela, qu'est-ce que cela veut dire, mais que nous nous posions la question, Seigneur, concrètement, comment doit être cette unité? Il y a tellement de différentes constructions, entités dans le monde qui ont une certaine soi-disant unité. Et il y a tellement d'explications. Bien sûr, nous sommes tous un, tous ceux qui sont sauvés, nous sommes un en Christ. C'est pas une question, mais est-ce que c'est de cette unité globale de tous les croyants que Dieu parle ici, que Christ parle ici? C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. C'est insuffisant. L'unité, là il est parlé de l'unité entre Christ et le Père, et cette unité-là était une unité profonde. Il n'est pas seulement parlé nous avec notre Seigneur. Je pourrais dire, ça suffit si je suis un avec mon Seigneur. Mais cette unité doit s'exercer aussi entre nous, de manière très concrète. Concrète. Comment sommes-nous un, les uns, les autres? Ici dit, cela doit avoir une expression afin que le monde voit, afin que le monde croit. Ça peut pas être quelque chose de théorique. Ça peut pas être une théorie. Comment le monde peut-il voir l'unité entre nous? Oui, nous sommes un. Dans un certain sens, nous sommes un. Nous avons une seule foi, un seul baptême. Mais comment peut reconnaître le monde? Comment peut-on reconnaître cette unité? Que nos yeux soient ouverts. Soyons conscients que cette unité est si précieuse pour Dieu sur cette terre. Ne laisse pas ce verset de côté. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés rapidement. Et peut-être même vous pensez à un certain nombre de personnes, même dans votre famille maintenant. Il n'y a pas tous les membres de la famille. Certains ont des membres de famille qui ne sont encore pas sauvés. Et qu'en est-il de nos voisins, de nos collègues de travail qui doivent recevoir le Seigneur dans leur cœur? C'est merveilleux que le Seigneur a commencé dans Philippiens. Dans Philippiens, il y a eu deux personnes qui ont cru. Et ils ont reçu la lumière et un chandelier a été produit. Prenez les frères et sœurs avec qui vous habitez dans votre, avec qui vous passez du temps dans votre ville. Pas seulement ceux avec qui vous vous entendez bien. Oui, c'est mes amis. Ils sont comme moi, c'est bon, ça passe. C'est quoi ça pour une expression? Le monde le fait pareillement. c'est une expression du monde. Si tu choisis que ceux avec qui tu t'entends bien, quelle expression tu auras? Quelle expression sortira-t-il? Et si tu ne prends pas soin de tous ceux qui ne te ressemblent pas, nous avons lu le chanteur chant, ne méprise pas les frères et sœurs, chéris les frères et sœurs dans ton église, spécialement ceux avec qui tu n'as pas forcément des attaches naturelles. Dans Philippiens 3 et 4, mais je ne sais pas le chapitre. Oh Seigneur, je remercie Dieu. Oui, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, waouh, ici Dieu, ici Paul avait en vue des frères et des sœurs qu'il avait connus personnellement. Et il avait certainement les noms de chacun d'eux en écrivant cela. Plus tard, il parle de certaines difficultés. Les difficultés sont là. Tu ne vas pas pouvoir les éviter. Je suis comme je suis. Vous êtes comme vous êtes. Et si on a des difficultés de laisser notre propre moi, alors c'est sur ce point-là que le Seigneur veut nous parler. Et c'est bon de prendre du temps, de remercier Dieu pour tous les frères et sœurs, de prononcer le prénom de chacun d'eux et de dire, Seigneur, je te loue pour ce frère, pour cette sœur. Si l'église est plus grande, alors tu peux prier un certain temps. Mais il n'y a rien de mauvais là derrière. J'aimerais vous rendre attentif combien il est bon de le faire. Quand l'église grandit, ça devient intéressant. Nous sommes un seul corps. J'aimerais vous amener à quelque chose de concret ici. On peut toujours voir les choses en grand, en général, mais la question, comment c'est dans ta localité? Dans 1 Corinthiens 12, verset 18, et on voit pourquoi Paul, il pouvait dire merci. Maintenant, Dieu a mis chacun des membres dans le corps. Maintenant, Dieu a placé, 1 Corinthiens 12, 18, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Prends ce verset pour toi. À Munich, par exemple. Ah, Dieu a placé chaque membre comme lui, il l'a voulu. Il n'y a pas ici de place pour les propres considérations, pour ce qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Dieu l'a fait. Dieu a placé chacun des membres. Et pourquoi? Ici, dans ces versets, on voit la description qui continue. 1 Corinthiens 12, 20, il dit encore, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et à ceux qui sont les plus faibles, qui ont besoin de plus de considération. » Il est bon de paraître être le frère le plus faible. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont faibles? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus faibles? C'est juste une manière de voir les autres. Si je pense à tel et tel, ce frère, s'il pourrait enfin réagir comme ça. Non. Oui, peut-être qu'on rigole là-dessus. Mais pouvons-nous dire est-ce que nous n'avons jamais eu ce genre de considération ou de pensée? Mais ici, Paul écrit plus. C'est justement ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voilà, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Si je crois, si je pense, ici il y a quelqu'un qui est peut-être plus faible, moins, qui est moins honorable. Ça, c'est relié à mon cœur, ma vision est faussée. Je regarde mal, je regarde pas de la bonne manière, parce que c'est la manière dont moi je pense. Si tu penses que quelqu'un est moins honorable, cherche la communion avec le frère. Et regarde la gloire de Dieu qui est en lui. Et Paul dit encore, ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Alors ceux qui paraissent être honorables ont moins besoin d'égards. Wow. Oh Seigneur Jésus, soyons des frères et des sœurs qui nous humilions devant lui afin d'avoir la vision de Dieu, cette vue corrigée. Et il dit ensuite, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais les membres aient également soin les uns des autres. Que nous nous portions, le but de ces versets, c'est de voir que nous devons nous porter les uns les autres. Dieu, c'est Dieu qui l'a accompli, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a un avertissement ici. Dieu a placé chacun comme il l'a voulu. Pas pour nos propres besoins, mais parce qu'il est la division. Par-dessus tout, c'est lui qui est l'unité. L'unité est lui seul. Lui, il a laissé sa vie pour toi et pour moi. Et moi, j'arrive à la conclusion et dis, ah, c'est dommage. Écoute, on est les deux là, mais on s'entend pas. Alors, prends ton propre chemin et moi, je prends mon chemin à moi. Quelqu'un rit là-dessus. Quelqu'un se réjouit là-dessus. Sur cette attitude. Et c'est pas le Seigneur qui se réjouit. C'est pourquoi il est important que nous nous arrêtions ici et que nous considérions que si nous sommes des auditeurs qui pensons prendre ce point sur l'unité de manière si superficielle, non, arrête-toi, regarde, tourne ton cœur vers le Seigneur. Que le Seigneur nous sanctifie. Le Seigneur attend cela. Il y a une relation d'un certain un combat, oui, c'est relié à un combat. C'est un combat de rester unis. Nous combattons ensemble pour l'édification de l'Église, pour et avec les frères et sœurs. C'est impressionnant de voir que les Philippiens aient vécu cela. Verset 5, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant et certainement encore demain, j'espère. Quand Paul il parle de l'Évangile, il ne parle pas ici d'aller annoncer l'Évangile dans la rue, etc. Et dans cette prédication de l'Évangile, il y a tout dedans, c'est complet. C'est également avec le but. Et ils ont combattu ensemble afin de garder la vérité, de garder l'unité et de garder ce qu'ils avaient reçu en étant purs. c'est-à-dire gardez-le dans votre cœur. Dans Philippiens 2, verset 20, il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. C'est dommage que Paul avait à ce moment-là personne autour de lui qui ait partagé les sentiments pour lui, avec lui, pour que l'Église puisse être accomplie, puisse être purifiée. Mais d'un autre sens, je vois aussi que ce verset est aussi, en quelque sorte, une prière. Seigneur, j'aimerais être là pour l'Église. J'aimerais être une partie de pour l'Église. Seigneur, je me donne à toi. Prends-moi pour ton plan. Tu as besoin de moi. Comme tu veux m'utiliser, utilise-moi. Et si cela signifie que tu dois encore me sauver dans mon âme, alors, Seigneur, fais-le. Si cela signifie que je dois encore, que quelque chose de mon moi doit encore être crucifié, ou, eh ben, fais-le, Seigneur. Dans Éphésiens 3, on voit encore ce mot aujourd'hui. Hébreux 3, nous voyons de ce combat que nous tous nous combattons. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps. C'est très intéressant de revoir que, à nouveau, nous voyons que c'est centré sur maintenant, sur aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va te passer demain. Ça, le Seigneur le connaît. Mais pour toi, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et encourageons-nous et regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ici, il y a quelqu'un qui aimerait endurcir ton cœur. Il aimerait tourner ton cœur contre ton frère. Et là, c'est le début de la perte, de la division. Quand tout cela quand cela est développé. Ici, dans le verset 14, Hébreux 3, 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ne considère ce que tu as reçu. Ne le néglige pas. On n'a pas une vie de réunion seulement, mais le Seigneur est là tous les jours avec nous, chaque jour. Le Seigneur, il peut sauver parfaitement chacun d'entre nous. Donc, ne néglige pas le frère qui peut être en train de s'écarter. Et là, il nous dit dans ce verset que nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons apprendre ces choses. Soyons conscients qu'il existe quelqu'un qui veut nous piquer ça. Il veut nous l'enlever. Il veut enlever cette œuvre. Il y a une œuvre dans la localité où tu es, c'est l'œuvre d'exprimer Dieu. La vie de l'Église que nous avons, c'est seulement pour nous. C'est, bien sûr, nous en réjouissons, bien sûr que nous avons part à la gloire de Dieu dans l'Église. Mais Christ dit dans Jean 17, afin que le monde voit que tu m'as envoyé. L'expression de l'Église va au-delà de notre propre réunion. C'est lui notre paix. Il est notre paix. Il est notre amour. Il est la vérité, la réalité. Nous avons la communion. Nous avons l'unité. Et combien c'est merveilleux si les gens extérieurs, ici à Bâle, il y a un endroit, mais je trouve tous ces points positifs. Comment ça peut être, comment c'est venu en expression? C'est le Seigneur qui le fait, et ce qu'il fait est si grand. Et ne prends pas cela comme naturel, comme allant de soi. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec ça. L'Église, c'est la prunelle de ses yeux. C'est ce qu'il a mis, pensé, déjà préparé avant la fondation du monde. Qu'il aimerait aussi amener à la perfection et terminer cette œuvre. Paul dit dans ses versets, verset 9, dans Philippiens 1, à partir de 9, je prie que votre amour coule davantage dans toute la connaissance, dans tous les sentiments, afin que vous puissiez. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donc, Paul l'a résumé encore dans Philippiens 3, tout ce que je regarde toutes choses comme une perte, parce que en regardant la grandeur de Christ, mon Seigneur, tout, et même je regarde toutes choses comme une perte. Est-ce que c'est vraiment le cas? T'es sûr que c'est le cas pour toi? J'en conclus, je ne peux pas donner de réponse ici. Quand je lis ce verset, j'ai ce désir profond en moi de regarder toute chose comme une perte, parce que j'ai goûté Christ, j'ai goûté combien il a déjà fait quelque chose de grand. Nous avons tous ce désir de regarder toute chose comme une perte. Je ne peux pas le dire aussi rapidement. Quand je regarde ma vie tous les jours, il y a tellement de choses qui me préoccupent, qui m'occupent. Mes pensées sont juste remplies, et même la nuit, il y a tellement de choses que le Seigneur doit encore travailler en moi. Je considère tellement de choses encore si importantes. Crois-tu vraiment que tu peux regarder comme une perte dans ta profession, alors que tu dois considérer tellement de choses au travail? Mais à la fin, tu passes tellement de temps pour ton emploi, Si vraiment tu prends tout ton temps pour ton travail et que tu n'as plus de temps pour le Seigneur, alors je ne peux pas répondre trop rapidement à ce verset ici. Et c'est pourquoi je prie, Seigneur, je veux continuer à regarder toutes choses comme une perte et de prendre ton amour pour moi. J'aimerais pas prendre cet amour que tu as donné pour moi, uniquement pour moi, mais Seigneur, que cet amour puisse être transmis aux autres, puisse déborder pour tous les autres, pour tous ceux qui sont dans ton cœur. C'est dans la prière du Seigneur que on voit que Christ avait fait déborder cet amour pour tous les autres. Dans 1 Thessaloniciens 1, à partir du verset 3, Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. On voit encore une fois ce cœur plein d'amour. Il est bon de remercier Dieu et de le louer pour chacun des membres. Et celui que Dieu a planté, a placé depuis le départ, et il est dit ici, c'est une prière, que votre foi grandisse, votre foi, le travail de votre amour et la fermeté, votre espérance en notre Seigneur devant Dieu, grandissent, débordent. Et dans le verset 5, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance de l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés parmi vous à cause de vous. Comme Paul, lorsqu'il était en prison, j'aimerais pas seulement parler de Paul, il y avait aussi des frères avec lui. Ils n'ont pas dit, OK, on a vu, mais ensemble, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché le Seigneur, et afin qu'ils soient trouvés en Christ. Et l'amour a débordé d'eux. Et ils ont parlé au geôlier. Relisez cette histoire. Toute la prison a entendu l'évangile. Relisez Actes. C'est un exercice. Et c'est pas si simple pour nous. Et j'en suis conscient. Dans la vie de l'Église, c'est pas si simple. On peut lire cette histoire. On peut dire oui, c'est merveilleux. On peut être un. Mais c'est un combat. Tu l'as uniquement au travers du combat. Mais c'est aussi un droit de pouvoir gagner le Seigneur. Ne nous laissons pas, ne soyons pas comme si tout allait de soi. Ne pensons pas que tout va de soi. L'amour déborde et nous amène à la perfection, nous amène dans l'unité. Reconnaissons comment le Seigneur est grand, combien il est riche, combien le salut que nous avons reçu est profond. Pensez-vous pas que le Seigneur peut traiter ses faiblesses en nous? Je suis persuadé qu'il peut. Est-ce qu'on peut dire tous oui, je le veux? Ou est-ce que mes pensées, ce que je pense, c'est plus important ce que les autres pensent?
wollen wir allen Ernstes wegen irgendeiner Meinung, das hat der Bruder Gershon auch schon gesagt,
on a tous une opinion, quelle que soit, on peut endommager le corps. Même si tu as des bonnes intentions, est-ce qu'il n'est pas plus précieux, parfois, de fermer sa bouche, d'ouvrir son cœur et de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'amour de la part de ce frère. Je le comprends pas. Je n'y arrive pas. Et en réalité, c'est pas tellement le problème de ce frère qui fait ceci ou cela ou qui a telle opinion, mais c'est mon cœur. Et je dois traiter mon cœur devant Christ. Mon orgueil doit être à la croix. Surtout, cette opinion personnelle propre peut endommager l'Église. C'est pourquoi c'est tellement important de grandir dans l'amour de Christ. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'un et de l'autre. J'ai besoin de toi aujourd'hui, j'ai besoin de toi demain, j'ai besoin d'une autre personne après-demain, j'ai besoin de tous vous tous. Et nous prêchons et nous ne sommes pas un. Quelle est l'expression que nous avons? Et en plus, il y a encore quelqu'un qui est là, qui pourra rire. C'est pas le Seigneur qui va rire. C'est si important de s'exercer à l'unité dans la localité où nous sommes. C'est pas juste une unité, c'est l'unité de Christ qui nous la donne. Dans Philippiens 1, 19, Christ sera exprimé, glorifié. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et pleine intelligence. C'était Éphésiens 1:9. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. Notre Seigneur est le même et nous nous entraînons à grandir en lui afin qu'il puisse nous remplir. Je ne peux pas dire plus là-dessus, mais afin que nous, si nous voulons voir combien c'est si important, c'est utile. Ayons cette conscience que l'Église est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Notre Seigneur est la personne la plus précieuse en nous qui sommes des vases. Le marchand dans Matthieu 13, ce marchand, il a trouvé toutes les perles. Et il est parti, il a regardé, est-ce qu'il pourrait trouver encore une meilleure perle? Et c'est possible. Il a dit, est-ce que c'est ça, ce qui est si précieux? Alors c'est dans Matthieu 13, versets 45 à 46, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Que chacun prenne cette question pour lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde? C'est pas si simple quand on regarde tout autour de nous. Toutes les difficultés, les gens qui prennent les choses comme allant de soi on ne respecte plus. regarde en dessus de ton assiette. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. J'ai pas trouvé. Parce que le Seigneur est ce qui est de plus précieux et c'est lui qui nous dit. Et nous avons dans Apocalypse 3, verset 11, je viens bientôt. Soyons sages et rachetons. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu ce qu'il y a de plus précieux. Tu peux chercher, tu peux regarder autour de toi, mais tu as déjà reçu. Je peux vous dire, vous n'allez pas trouver quelque chose de plus précieux que Christ et l'Église. Le danger, il y a quelqu'un qui aimerait te voler. C'est pourquoi ici, dans Jean, on voit quelqu'un qui nous encourage. Tu as déjà reçu la couronne. Alors, fais en sorte que personne ne prenne cette couronne. Apocalypse 3, 11. Et tu veux laisser ta couronne pour le monde? Il y a tellement de versets dans tellement d'épîtres qui t'encouragent, qui disent « Attention, il y a des éléments là, ici, autour de nous. » Colossiens 2, verset 8, « Que rien ne puisse enlever. » Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant par la tradition des hommes sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Quel que soit Romains 16, ici, il y a cette dirigé à des frères. Qui s'occupaient de leur propre gloire. Retiens ce que tu as afin que tu puisses garder. Ici, L'unité est l'expression ultime de l'œuvre que Christ fait. Ça, c'est la manière dans laquelle nous allons être mesurés. C'est la mesure de Dieu. Reste tranquille. Et clarifie tout ce qui va à l'encontre de cela. Clarifie-le avec Dieu. Romains 15, 5 et 6. Quand j'ai lu cela, je dis, wow, si c'est le témoignage quand le Seigneur vient. Et quelque part, Dieu l'a déjà accompli un peu en nous et il va encore le rendre plus lorsque nous restons en lui. Oui, c'est Romains 15, verset 5, que Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Lisons ces versets. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, on arrive à